c'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Elle fournit 40% des fèves qui circulent dans le monde. Cela représente 20% du produit intérieur brut du pays. Alors comment expliquer que la plupart des producteurs vivent sous le seuil de pauvreté? Est-ce que cette situation paradoxale qui empêche le développement des coopératives et les investissements pour augmenter la productivité ne menace pas la durabilité de la filière? Deux chercheurs ont compilé des centaines d'études près d'une dizaines de banques de données et réalisé de nombreux entretiens et leur constat est sans appel. Il faut restructurer d'urgence l'ensemble de la filière, sinon le pays court à la catastrophe.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Bonjour Christophe Alliot et Sylvain Lee.
Bonjour.
Bonjour.
La face cachée du chocolat, c'est le nom de l'étude que vous publiez cette semaine. Elle vous a été commandée par la plateforme du commerce équitable, hein, uniquement, ou il y a d'autres commanditaires, Sylvain Lee?
Il y avait aussi le ministère des Affaires étrangères et l'Agence française pour le développement. En fait, la plateforme étant un regroupement d'acteurs divers et variés, effectivement, il y avait plusieurs commanditaires à l'origine. Il y avait aussi des ONG comme Peuple Solidaire.
Voilà, ça intéresse du monde. Et alors, c'est dans le cadre de votre bureau d'études, le BASIC, ce qui signifie Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. On va parler plus spécifiquement de cette étude, mais globalement, le BASIC, c'est ça votre travail, c'est d'auditer des filières?
Alors, c'est vrai qu'on travaille assez souvent à l'échelle des filières, mais notre travail, plus précisément, c'est de contribuer au débat public sur la question des impacts de nos modes de consommation et de production, d'où le fait de prendre une filière, puisque une filière regroupe à la fois les modes de production et de consommation.
C'est-à-dire comprendre ce qui se passe quand on achète un t-shirt ou une plaque de chocolat, savoir ce qui se passe derrière.
Exactement, et ceci pour être en capacité de mieux discerner quels sont les modèles à privilégier et ceux au contraire qu'il faut bannir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est un peu à l'heure des choix, qu'on parle au niveau social ou environnemental.
Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est une démarche scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas une démarche uniquement militante. Vraiment, c'est basé, par exemple, Christophe Alliot, pour cette étude sur la face cachée du chocolat, vous avez épluché plein de données scientifiques.
Oui, c'est l'une des bases de notre travail, c'est d'essayer de collecter un maximum d'informations. Là, un peu plus de 400 documents à la base, dont on a trié, analysé beaucoup plus en détail, un peu plus d'une centaine, 130 à peu près, et aussi bien de la recherche académique, des rapports d'institutions, de ministères, de différents pays, mais aussi des rapports ou des documents qui viennent d'ONG, qui viennent d'entreprises elles-mêmes, de systèmes de certification, d'associations de consommateurs.
Et puis aussi des entretiens sur le terrain.
Exactement, une dizaine d'entretiens avec des experts aussi bien proches de la production, proches de la consommation ou au milieu de la filière, et puis parfois aussi avec des journalistes et des médias.
Alors avant de parler de la Côte d'Ivoire, le cacao, en général, c'est quand même une filière emblématique, hein, de l'évolution des matières premières sur le marché mondial.
C'est une emblème. Vous posiez en début la question de comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle du cacao. C'est le reflet de beaucoup d'autres matières premières comme le café, comme le sucre également, comme la banane, qui sont des produits qu'on consomme en gros volume, qui se sont massifiés tout au long du XXe siècle. On voit des courbes exponentielles de croissance de la production comme de la consommation. Et donc aujourd'hui, c'est un produit qui est, depuis déjà pas mal de décennies, très standardisé, très codifié.
Avec un rapport de pouvoir très particulier, puisqu'il y a 5 millions de petits producteurs qui ont quoi? Des parcelles d'environ combien d'hectares?
5 hectares.
Voilà, donc des tout petits producteurs de l'agriculture familiale, comme on dit, face à 5 grandes marques qui fabriquent 80% des produits chocolatés. Sylvain Lee, le décalage est énorme.
Oui, c'est ce que nous on appelle le sablier, en fait, c'est-à-dire... À un bout de la chaîne, une multitude de consommateurs, à l'autre bout de la chaîne, des millions de producteurs, comme vous le disiez. Et entre les deux, quelques grands groupes qui ont réussi au fil du temps à asseoir des situations de dominance assez fortes, notamment auprès de leurs fournisseurs.
Et donc ça crée une espèce de cercle vicieux que vous dénoncez, alors là pour le cacao, mais j'imagine que c'est valable pour d'autres matières premières, qui est donc un déséquilibre de pouvoir, donc une faible organisation des producteurs par rapport aux acheteurs, donc un prix faible et instable puisqu'ils n'arrivent pas à se défendre, donc un manque d'investissement et donc une baisse des rendements, et c'est comme ça qu'on arrive à des filières en péril.
C'est ça. Ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, c'est justement de montrer que c'est une sorte de trappe, une sorte de piège dans lequel se retrouvent les producteurs, pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, un peu partout dans le monde. On a des situations très très similaires. On arrive aussi à regarder le Pérou, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres zones, y compris en Asie. Et on retrouve ce piège qui va au-delà du coup des impacts dont on entend souvent parler, de tous ces problèmes de la filière ou du cacao, mais c'est quelque chose qui se nourrit de lui-même et où on voit difficilement comment, de manière générale, sans modèle alternatif, comment on peut sortir de cette situation-là quand on est un producteur.
Alors je le disais, vous êtes intéressé à la Côte d'Ivoire puisque c'est le premier producteur mondial de cacao et cette production est d'ailleurs un enjeu essentiel pour le pays, comme l'a rappelé le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, interrogé le 17 mai dernier par Léonard Vincent sur RFI.
Habituellement, quand la récolte n'est pas très forte, il y a une augmentation des prix. Donc le producteur, lui, doit s'attendre à des prix peut-être plus élevés. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, la Côte d'Ivoire produit actuellement entre 1,7 et 1,8 million de tonnes. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao, avec une part, disons, de 40%. Et ce qui est important, c'est que nous avons amélioré la qualité du fait de la décision de faire en sorte que le prix au producteur soit lié au prix international. 60% du prix international est reversé au monde paysan. L'autre objectif qui est important à souligner, c'est la transformation de ce cacao que nous souhaitons être plus forte au niveau localement. Nous transformons actuellement 33% de ce cacao localement. Notre objectif est de faire en sorte que 50% de ce cacao soit transformé localement. C'est l'une des raisons pour laquelle nous allons rencontrer le secteur privé sur le problème de la transformation.
Christophe Alliot, on entend bien que le Premier ministre ivoirien, le gouvernement ivoirien, globalement, fait attention et prend des dispositions justement pour la durabilité de cette filière.
C'est quelque chose qu'on met vraiment en avant dans le rapport, c'est qu'en effet, il y a une intervention très forte qui d'ailleurs singularise la Côte d'Ivoire de pas mal d'autres pays, notamment le Pérou qu'on a aussi investigué dans le cadre de cette étude, avec un travail, comme l'a dit le Premier ministre, alors sur le prix qui certes est lié au prix mondial, mais qui est surtout un prix stable pour toute la récolte, qui est garanti bord champ, comme on dit, donc aux planteurs. Et puis un travail sur la qualité qui fait que ça a remis de la confiance dans tout un marché mondial qui, dans les années précédentes, avait du mal à valoriser le cacao, qui avait une mauvaise réputation en Côte d'Ivoire, alors que là, on voit de manière documentée par beaucoup de rapports qu'il y a véritablement un changement de très fort qui a eu lieu. Après, ce qui est compliqué, c'est que même s'il y a une remontée de la valeur, comme le dit le Premier ministre, c'est une remontée de la valeur sur un marché, comme on le disait au début avec Sylvain, qui est un marché de consommation de masse, où le cacao n'est pas si valorisé que ça. On le retrouve surtout en ingrédients dans beaucoup de barres chocolatées, de confiseries, de choses où les premiers ingrédients sont avant tout les matières grasses et le sucre, et pas forcément le cacao.
Il n'y a qu'en France qu'on mange massivement des tablettes, finalement.
Oui, c'est ça.
Sylvain Lee ?
Oui, c'est 33%, je crois, de part de marché pour les tablettes, c'est ce qui est vraiment un cas atypique par rapport aux autres pays européens ou ailleurs dans le monde. On est aussi un des rares pays où il y a des artisans chocolatiers qui travaillent justement sur les qualités organoleptiques du cacao, qui valorisent ces qualités dans leurs produits finis. Et là encore, on se distingue de pas mal d'autres marchés.
Résultat, vous dites qu'un Français mange à peu près 6,5 kg de chocolat par an. C'est énorme. Enfin, j'adore le chocolat, j'ai pas l'impression d'en manger 6,5 kg.
Alors 6,5 kg, ça peut paraître énorme, j'ai pas les chiffres en tête là, mais c'est pas, on n'est pas parmi les plus gros mangeurs, comme les Suisses ou autres, certains pays sont à 10 kg et plus par rapport aux Français. Donc on est un marché où on consomme aussi apparemment surtout la qualité par rapport à beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on en a vraiment sous forme de tablette et on aime le chocolat en France et le chocolat noir et c'est ce qui fait culturellement aussi notre différence.
Mais alors ce qu'on ne sait pas, ouais, ça c'est plutôt positif, mais ce qu'on ne sait pas quand on achète une plaque de chocolat, et c'est en cela que votre étude est vraiment intéressante, c'est que finalement, il y a seulement, je crois, 7% du prix de la plaque de chocolat qui revient aux producteurs. Alors, si on revient à la Côte d'Ivoire, par exemple, quelle est la part de producteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui ?
On a fait nos estimations à partir des dernières données disponibles 2015. On a pris en compte le prix qui a été relevé par le gouvernement, qui a 1000 francs CFA pour la dernière campagne qu'on a pu sur laquelle on a eu des informations. Et bien même là, on est sur un revenu au producteur. On va parler du coup en CFA par rapport à nos auditeurs qui connaissent en Côte d'Ivoire. On peut estimer que pour vivre décemment pendant une année, un individu a besoin en Côte d'Ivoire, dans les zones cacaoyères, d'à peu près 280 000 francs CFA.
Ça fait combien d'euros euros pour nos auditeurs.
Ça fait à petit peu près pour
européens.
Nos autres auditeurs 430-435 euros. Et par contre, en vis-à-vis, on se rend compte que le revenu des planteurs de cacao, il peut être plutôt estimé autour de, donc j'ai 280 000 CFA, là on est plutôt à 220-230. Donc on est encore en dessous, on est à 330 euros à peu près par personne et par an. Donc on a encore un fossé à combler pour arriver au moins à ce que les planteurs puissent faire face à leurs dépenses au quotidien. Et puis n'oublions pas, c'est une des choses importantes de cette filière, c'est qu'une exploitation de cacao fait vivre en moyenne plus de 10 personnes. Et donc du coup, c'est des choses qu'on réalise pas forcément dans d'autres pays, et surtout par chez nous en France, c'est qu'il faut que ce soit suffisamment rémunérateur pour tous ces besoins-là.
Alors la solution pour mieux rémunérer les producteurs, hein, dont on parle souvent dans cette émission, c'est le commerce équitable. Alors il est assez peu répandu en Côte d'Ivoire, nous allons y revenir. Mais je vous propose d'écouter ce que pense Christophe Auguste Douka de ce débat sur le prix justement du cacao. Il est producteur de cacao et président du syndicat national des producteurs de café et de cacao individuel de Côte d'Ivoire. Il est interrogé par Isidore Kouadio.
On a créé le commerce équitable parce que au niveau de certains pays, on n'a pas les prix rémunérateurs. Or, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir les prix rémunérateurs si nous abaissons les droits uniques de sortie et toutes les taxes et les taxes parafiscales qui tournent et grèvent le prix aux producteurs. C'est aussi simple que ça. Si la filière de cacao était libéralisée et que nous pouvions vendre sans passer par le conseil café-cacao obligatoirement pour vendre notre cacao à l'extérieur, tout en payant une certaine taxe à l'État qui serait négociée de manière intelligente. Mais écoutez, on n'aurait pas eu le commerce équitable. Le commerce équitable, nous sommes d'accord, mais nous ne voulons pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, de ma plantation, je dois pouvoir vendre du cacao à l'extérieur comme je veux, à n'importe quel chocolatier. Or, on nous impose, on met en place tout un système qui favorisent des personnes qui sont des intermédiaires. Et vous savez qu'à chaque fois que vous traversez un intermédiaire, vous perdez des plumes. Parce que lui aussi, il faut qu'il vive de cette intermédiation. Et c'est tout le problème. Je donne un exemple tout bête. Si je suis capable de fournir avec tous les producteurs qui sont dans ma région, 5000 à 6000 tonnes à Mars ou à Nestlé, pourquoi pas? Mais pourquoi on m'impose qu'il faut que je passe par un acheteur de produits, un exportateur qui va payer ceci à l'État? Nous voulons être libres. On veut cette libéralisation. Allons effectivement à la libéralisation, mais ne faisons pas seulement la libéralisation des prix. Allons à la libéralisation de tout le système. Lâchez-nous. Pour que si moi j'ai envie de dealer avec Nestlé ou je ne sais pas, n'importe quel transformateur ou chocolatier dans le monde, que je sois libre de le faire. Or, nous ne sommes pas libres. On nous impose certaines choses et c'est ce que nous ne voulons pas. Beaucoup de producteurs aujourd'hui, alors que le commerce équitable arrive, sont en train de se tourner vers d'autres spéculations, vers l'EVA, vers le palmier. Et ça, ça pose problème parce que qui reste pour faire ce commerce équitable? Très peu. Donc, le commerce équitable, oui, mais ce serait encore plus équitable si nous étions libéralisés totalement, mais pas qu'on nous dise qu'on libéralise seulement les prix pour permettre à toutes les multinationales de descendre sur nos bords champs et puis casser même nos coopératives. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Nous, même si nous voulons aller au commerce équitable, qu'est-ce que le Conseil Café Cacao fait pour favoriser le commerce équitable? C'est-à-dire, un, l'information aux producteurs de base, ce n'est pas aux coopératives. Or, ils s'adressent aux coopératives. Dans les coopératives, il n'y a pas les plus grands producteurs. Ça, c'est la réalité. Les plus grands producteurs ne se trouvent pas forcément dans les coopératives. Les multinationales qui ont certaines coopératives font les yeux doux à ces coopératives pour les garder. Mais ce n'est pas parce que ça les intéresse que les coopératives existent en tant que telles. Tant que les coopératives leur permettent de faire beaucoup d'argent, alors, ils entourent ces coopératives. Dès que la coopérative les gêne, ils passent par des acheteurs qui sont des prête-noms pour aller au bord champ, alors qu'ils doivent rester au cordon douanier, c'est-à-dire dans les ports d'Abidjan et les ports de San Pedro. Cette année, il y a eu la déclaration de Berne, en Suisse, qui a dit qu'il faudrait que les producteurs de cacao gagnent 4 fois plus pour atteindre le seuil de pauvreté de l'ONU. C'est grave. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on se rend compte que quelque part, les producteurs vont à la misère et vont se détourner de la production. Donc, de l'autre côté, les chocolatiers sont inquiets. Parce que si notre production baisse, ils vont avoir des problèmes. Ayant compris ça, ils commencent à crier déjà vers les gouvernants pour dire arrêtez, donnez ce qu'il faut à ces gens-là pour qu'ils continuent à faire du cacao. Et cette année, ils ont fait cette déclaration. jusqu'à présent, on n'a jamais vu ça. Donc, ça veut dire que quelque part, eux, comme ils font de la prospective, ils ont compris que s'ils ne font pas attention, ils vont tuer la poule aux œufs d'or.
Et voilà, donc Christophe Alliot, selon Christophe Auguste Douquin, hein, le problème, c'est la mainmise de l'État sur la filière et les multiples intermédiaires.
Alors, c'est une intervention dense, mais pour essayer d'apporter quelques points de précision. La libéralisation, pour bien fonctionner, elle a une condition sine qua non, c'est qu'il y a un équilibre de pouvoir et de négociation.
Libéralisation, ça veut dire se passer de l'État, finalement, et être en direct avec les grands groupes industriels.
C'est ça. Mais que pèse un producteur qui a quelques hectares, et même s'il en a une dizaine, face à un groupe mondial comme Nestlé qui pèse plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an? Du coup, la problématique, elle est pour nous beaucoup plus celle de la régulation. Et d'ailleurs, encore une fois, on le disait au début, on voit les impacts positifs de la reprise en main de la filière et de la régulation qui a été remise par l'État ivoirien il y a déjà 3 ans. Après, sur la question des taxes fiscales, parafiscales, on aimerait quand même pointer du doigt une chose, enfin, on le pointe du doigt dans le rapport, c'est que ces taxes, elles ont aussi une destination et une raison d'être. C'est que dans toutes ces zones cacaoyères, il y a un besoin d'infrastructures de base essentielles sur l'éducation, les transports, la santé, le logement. Qui va payer pour ça? Est-ce qu'on s'attend à ce que les producteurs payent tout de leur poche? Alors là, oui, ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent peut-être 10 fois plus, mais l'État aussi a un rôle d'apporter l'ensemble de ces infrastructures, de ces services publics dans lesquels on voit, alors dans d'autres pays, notamment latino-américains, le Pérou qu'on a étudié, on voit le rôle des coopératives avec l'État main dans la main et les pouvoirs publics locaux de monter justement tous ces services publics à destination des communautés villageoises et de permettre un développement local et des cercles vertueux. Ça, on en est encore loin dans le cas de la Côte d'Ivoire, mais aussi parce qu'on a un système qui, comme le dit très justement la personne que vous avez interviewée, on est dans une relation de pouvoir inégale où ce que cherchent les principaux acheteurs, c'est d'aller au plus simple, au plus vite et potentiellement au moindre coût.
Sylvain Lee, dans votre étude, vous pointez les coûts cachés justement de la production de cacao en Côte d'Ivoire. Justement, ce que l'on ne voit pas, mais les conséquences finalement de cette filière et de ces conditions de production. Et alors là, c'est vraiment intéressant puisqu'on se rend compte que sur 1 euro gagné par l'État, 77 centimes de coûts sociaux en face. Donc c'est là où on s'interroge sur la durabilité de cette filière. Donc expliquez-nous ce que sont ces coûts cachés.
Les coûts cachés, en fait, c'est les coûts qu'on estime ou qu'on calcule et qui sont liés aux impacts sociaux, économiques ou environnementaux liés à l'organisation de la filière actuelle. Plus précisément, là, si on revient sur l'étude cacao, on a regardé l'impact de la sous-rémunération des producteurs. Partant du principe que voilà, s'il fallait rémunérer correctement les producteurs pour qu'ils arrivent à passer au-dessus du seuil de pauvreté, ça équivaudrait à une somme d'argent. Cette somme d'argent-là, elle constitue le coût caché lié aux revenus. On a fait la même chose par rapport à l'insuffisance des services essentiels dont parlait Christophe. C'est-à-dire qu'on a constaté que...
Santé, éducation...
Exactement. Dans les régions productrices, ces services-là n'étaient pas forcément totalement assurés. En tout cas, la filière cacao n'y contribue pas à la hauteur de ce qu'elle devrait contribuer. Et donc, le gap identifié entre cette contribution théorique de la filière à la réalité, on l'a aussi calculé comme un coût sociétal. On a ensuite regardé la déforestation, on a regardé tous les programmes mis en place pour lutter contre la déforestation, tous les investissements qu'il faut pour arrêter la déforestation, ça constitue aussi un autre coût sociétal.
Mais 80% quand même de la forêt originelle de Côte d'Ivoire a disparu en 60 ans à cause de la production de cacao. Pas seulement
pas
le cacao,
seulement,
mais majoritairement.
Mais en partie, effectivement. Et on a aussi documenté dans l'étude que, effectivement, moins les producteurs étaient rémunérés, plus ils avaient tendance à déforester pour aller chercher des suppléments de production, puisque, effectivement, la meilleure façon de produire du cacao et d'avoir des rendements, c'est d'aller chercher une terre qui est riche. Et la forêt, quand elle vient d'être déforestée, est très riche. Ça s'appelle le couvert forestier. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la rente forestière. Et le premier réflexe des producteurs, quand ils sont en situation de pauvreté, c'est d'aller vers cette rente forestière.
Alors là, la question, Christophe Alliot, je ne peux pas vous donner la parole parce qu'on arrive à la fin de cette première partie, mais on voit que la durabilité de la filière cacao en Côte d'Ivoire, en tout cas, pose question. Alors, quelles sont les solutions? Parce que votre étude ne pointe pas seulement les dysfonctionnements, elle fait aussi des recommandations. Nous en parlons ensemble dans 3 minutes, juste après le flash d'info. À tout de suite.